Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion.
Un jour ou deux jours après, on voyait des corps parce qu'on habitait au bord de la Seine. Nous, notre bidonville est au bord de la Seine. Et donc, les gens ont vu des corps flotter sur l'eau. Et donc, l'idée, c'est que beaucoup d'Algériens ont été jetés à l'eau.
RFI, grand reportage.
Ici, on noie les Algériens. L'inscription à la peinture noire sur les quais de la Seine à Paris est devenue célèbre, un symbole de la guerre d'Algérie. Et pourtant, beaucoup de Français ignorent à quel événement elle fait référence, la répression d'une manifestation pacifiste d'Algériens le 17 octobre 1961. 200 à 300 personnes tuées par les forces de l'ordre, une réalité étouffée durant plus de 20 ans. 17 octobre 61, il y aura-t-il une reconnaissance d'un crime d'État en plein Paris? C'est un grand reportage de Marie Casadebé.
Là, normalement, il n'y avait pas ce tunnel-là. La route, elle continuait tout droit. Et donc, le long, sur la gauche, là, ben, les anciens immeubles, et puis il y a toute une rangée d'arbres qui étaient là, qui permettaient de se cacher quand il y a eu des coups de balle.
Le quartier du pont de Neuilly a bien changé en 60 ans. Les arbres ont disparu et laissé place aux immeubles de bureaux de la Défense. Le pont qui enjambe la Seine et relie la banlieue ouest à Paris est devenu une artère très passante.
Je m'appelle Benaïssa Khaled, j'avais 13 ans le 17 octobre 61.
Ce mardi soir, la famille de Khaled répond à l'appel de la Fédération française du FLN, le mouvement indépendantiste algérien. Il s'agit de marcher vers le cœur de la capitale pour dénoncer le couvre-feu imposé depuis quelques jours aux Français musulmans d'Algérie, comme on les appelait, et pour réclamer la paix. Comme des centaines d'autres Algériens, Khaled, son père, ses frères, ses oncles quittent le bidonville de Nanterre. Ils ne pourront jamais traverser la Seine.
Là, il y avait juste au bout, ils avaient la garde mobile et avaient complètement fermé le passage du pont. Certains avaient des mitrailleuses avec un trépied posé par terre. C'est le souvenir que j'ai lorsque toutes les premières rangées sont tombées à la suite des balles déjà premièrement tirées. Certainement qu'ils avaient reçu un ordre qu'il faut qu'aucun Algérien ne passe. Ben, j'ai essayé de courir pour me cacher. Il faisait une nuit sombre et là j'ai trébuché. Je pensais que c'était le trottoir et en fin de compte c'était des corps, et d'autres corps me sont tombés dessus. Je ne pouvais plus me dégager, je commençais à perdre ma respiration, je suffoquais, et j'ai cru que mon heure est arrivée. J'ai commencé à faire ma prière, et par miracle, quelqu'un me tirait par les pieds. J'ai constaté que c'était mon oncle qui m'avait tiré ce tamas de cadavres ou d'hommes blessés qui ne pouvaient pas bouger.
Juste de l'autre côté du fleuve, une étudiante en philosophie rentre chez elle et devient, sans le comprendre tout de suite, témoin d'une répression policière préméditée et organisée qui s'abat en plusieurs lieux de la capitale.
Je m'appelle Catherine Lévy et le 17 octobre 61, j'avais 19 ans. J'étais allée, je me souviens, au cinéma avec des copains du côté de l'opéra. J'avais une piole d'étudiants au pont de Neuilly. Donc on a pris le métro. Et alors là, quand je suis arrivé au pont de Neuilly, j'étais complètement estomaqué. Sur le quai, il y avait des gens qui étaient visiblement des Algériens, qui étaient ensanglantés, et les flics interdisaient qu'on leur parle. J'ai compris, quand je suis sorti, parce que j'ai rencontré un copain qui avait aussi une piole dans le coin. Il avait vu comme moi, c'est-à-dire des gens vraiment en sang, quoi. Je veux dire, c'était... Moi, je n'avais jamais vu ça de ma vie. Hein. On comprenait très bien que c'était les flics qui matraquaient des Algériens. De toute façon, dès qu'ils voyaient un Algérien, ils tapaient dessus. Hein.
Plusieurs nuits durant, les forces de police sont restées en état d'alerte à Paris à la suite des manifestations auxquelles avaient pris part 20 000 musulmans algériens. À Ménilmontant, comme à la Goutte d'Or, le rideau de fer était tiré devant les boutiques et les cinémas.
Je m'appelle Clara Beldois et le 17 octobre 1961, j'avais 31 ans.
Je m'appelle Henri Benoît et... En octobre 61, j'avais 35 ans.
Le couple travaille à l'usine Renault de Boulogne-Billancourt. Il côtoie de nombreux Algériens employés sur les chaînes de montage du constructeur automobile. Leur engagement syndical les plonge dans l'histoire en marche.
Le FLN de chez Renault est venu nous trouver en disant « Voilà, nous allons organiser une manifestation. On conteste notre représentativité du peuple. » Et comme les rapports avec la police sont ce qu'ils sont. Je vous demande de venir et d'écrire tout ce que vous pourrez voir.
Bien qu'eux avaient des consignes d'y aller désarmés. On était 4 ou 5 chez Renaud, et nous deux, on nous avait fixé l'opéra.
Il y avait plusieurs quarts de police. Au fur et à mesure que sortaient du métro des gens dont le profil laissait supposer qu'ils étaient algériens, ils étaient contrôlés. Entre-temps, il s'est constitué une masse de plus en plus importante d'Algériens. Nous avons, sur le trottoir, suivi la manifestation, qui était, autant que je me rappelle, silencieuse, Clara.
Oui, oui.
Silencieuse. Jusqu'au moment où l'on est arrivé à la hauteur du Rex, du cinéma. Et c'est au Rex que c'est là... on a entendu des coups de feu, on a entendu la dispersion, vous voyez, les flics sont intervenus.
Et là, c'était la débandade. On a vu que la manifestation s'égayait dans toutes les rues avoisinantes pour échapper aux tirs de la police. Et ensuite, on a retrouvé un camarade de chez Renault qui était en voiture, lui. Et on a fait le tour. Et là, on a vu les quarts de police qui ramassait, si l'on peut dire, les Algériens. S'il entraînait quelques-uns, il ramassait le reste. Mais enfin, bon. J'ai le souvenir au métro, on l'a vu d'un peu loin. On a vu effectivement des corps étalés.
Les forces de l'ordre sont dépassées par la mobilisation. Des bus municipaux sont réquisitionnés pour embarquer le maximum d'Algériens et les emmener vers des lieux de détention improvisés. Certains manifestants y passent plusieurs jours, privés de nourriture, frappés, humiliés.
Le bilan officiel, c'était 2 morts algériens.
Gilles Monceron, historien, spécialiste de l'histoire coloniale de la France.
C'est ce qui a été dit au lendemain du 17 octobre par la préfecture de police, par les autorités, ministère de l'Intérieur, gouvernement français. Et ce bilan de 2 morts, il a été perpétué comme vérité officielle, mensongère, par le préfet de police Maurice Papon, qui publie ses mémoires dans les années 80. Le FLN est descendu dans la rue et a tiré sur les policiers, ce qui était complètement faux. En réalité, Jean-Luc Hénaudy, le principal auteur d'ouvrage sur cet événement, à partir des années 90, il essaye de faire des listes de disparus. Il arrive à 150, 200, mais c'est un premier bilan chiffré qui tourne autour de 200 victimes disparues lors du 17 octobre. Dans les semaines qui précèdent et qui suivent immédiatement.
Tous les manifestants arrêtés le premier soir, il y en eut 11 500, ne devaient pas connaître le même sort. 1 500 en effet ont été refoulés vers l'Algérie dans leur douar d'origine. C'est ainsi qu'à Orly, 144 d'entre eux ont été embarqués à destination de Constantine.
Aux 200 morts à Paris, il faut sûrement en ajouter une centaine de l'autre côté de la Méditerranée. Les expulsions vers l'Algérie n'ont rien d'un simple retour au pays. Ces hommes sont parqués dans des camps militaires. Certains y ont laissé la vie.
Inter, actualité.
Crise hostile, slogan FLN, voiture malmenée, retournée. Très vite, les heurts deviennent inévitables.
Dans les jours qui suivent, la presse relaie le message officiel ou tombe sous le coup de la censure. La violence laisse place au silence et à l'absence dans l'usine Renault de Boulogne-Billancourt comme dans le bidonville de Nanterre.
Alors, c'est quand même assez angoissant de retrouver des mères de famille dont le mari a été arrêté, etc., et qui se tournent vers le comité d'entreprise, parce que c'était un endroit d'accueil. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment on peut avoir des nouvelles? Voilà, c'est des choses qu'on ne peut pas oublier.
Il y a eu des tracts CGT qui ont été édités très rapidement, le lendemain ou le surlendemain, parce que dans certains ateliers, des ouvriers algériens étaient absents. Où sont passés nos camarades? On n'a aucune nouvelle.
Je pense que l'information a circulé, des rumeurs ont couru, que sur, d'une part ceux qui ne sont pas rentrés, et d'autre part, sur déjà un jour ou deux jours après, on voyait des corps, parce qu'on habitait au bord de la Seine. Nous, notre bidonville est au bord de la Seine. Et donc, les gens ont vu des corps flotter sur l'eau. Et donc l'idée c'est que beaucoup d'Algériens ont été jetés à l'eau. Et chaque fois qu'il y avait un qui revenait, il y avait une joie dans le bidonville que certaines personnes retrouvaient les leurs. Mais d'autres, il n'y a pas de nouvelles.
Entre-temps, la vie a repris le dessus, c'est-à-dire que j'ai repris l'école, les gens en parlaient très peu, parce qu'il fallait protéger aussi les enfants, je pense.
Ce déchaînement de violence reste une énigme. Nous sommes à quelques mois des accords d'Évian, plus rien ne fait obstacle à l'indépendance de l'Algérie. Mais le Premier ministre Michel Debré, dont la position sur l'Algérie diverge de celle du président de Gaulle, est dépossédé du dossier. Il garde tout de même la main sur le maintien de l'ordre. Le préfet de la Seine de l'époque arme des supplétifs. Des escadrons de la mort sèment la terreur au sein de la communauté algérienne dès la fin de l'été 61. Le 17 octobre est un point d'orgue. Mais il faudra 20 ans pour que la vérité commence à émerger.
Il y a eu une tendance en France, de la part des autorités officielles, de mettre un voile pudique sur cet événement, comme sur les violences de la guerre, par les amnisties successives, série d'amnisties, série de politiques présidentielles. Georges Pompidou a été plus loin que de Gaulle. Il fallait effacer les périodes où les Français ne s'aimaient pas, a-t-il dit une fois. Giscard d'Estaing a été beaucoup plus loin parce que lui, il était plutôt pro-Algérie française à l'époque. Il a fallu attendre les années 80, bien que Mitterrand soit pas trop pour faire la vérité sur cette période où son attitude n'a pas toujours été très, très claire. Il y a un début de processus d'établissement des faits, y compris sur le 17 octobre. Un processus qui repose aussi sur des familles d'Algériens qui ont subi cette répression et qui commencent à parler. Hein. Certaines familles ont raconté à leurs enfants et ces enfants commencent à manifester au canal Saint-Denis, par exemple, où il y a eu des victimes noyées, au pont Saint-Michel, et certaines associations s'y joignent. Fin des années 80 se constitue l'association Au nom de la mémoire, avec justement des enfants de l'immigration.
On a demandé à Ernest Pignon de nous faire une affiche que voici, qui est une affiche qui n'est pas siglée. Voilà. Qu'on a commencé à envoyer en province. Voilà. C'est une affiche terrible, terrible, terriblement belle. Voilà.
Ces enfants de l'immigration ont bien grandi. Ils sont devenus eux-mêmes parents, grands-parents, mais leur combat n'a pas changé.
L'enjeu, c'est la transmission. Et moi, clairement, quand je parle avec mes enfants tous les jours, je leur dis une chose très importante. Ce n'est pas une mémoire du pathos. On n'est pas là pour pleurer, pour chialer, pour ceci, pour dire, voilà, nous sommes les victimes. Non, pas du tout. Nous sommes fiers que nos parents, nos grands-parents, eh bien, ils ont porté cette histoire et ils sont restés debout. Parce que sinon, ça voudrait dire, nous sommes la manif des perdants. Et ce qu'il faut valoriser, c'est le courage.
Comme chaque année, à l'approche du 17 octobre, des associations de rescapés, d'enfants de victimes et de soutien se retrouvent pour organiser les commémorations du massacre à Paris et en banlieue. Au devoir de mémoire de leurs premières années de lutte, se sont ajoutées, il y a 20 ans, des revendications concrètes. La reconnaissance de la responsabilité de l'État français, l'accès aux archives et un lieu de mémoire. Olivier Lecourt-Grandmaison est politologue, universitaire. Il est membre du collectif unitaire 17 octobre 1961 pour la reconnaissance d'un crime d'État.
Les choses ont très peu avancé. On pourrait quasiment reprendre mot pour mot l'appel de 2001, ce qui prouve les extraordinaires résistances auxquelles nous nous heurtons pour obtenir la reconnaissance de ce qui a été perpétré il y a maintenant 60 ans, en effet.
À Clichy-la-Garenne, François Hollande, candidat à la présidentielle, rendait hommage aux victimes du 17 octobre 61.
Tout simplement rappeler ce qui s'est produit ici, c'est-à-dire plusieurs dizaines de morts dans des conditions tragiques.
Un an après, François Hollande, président de la République, diffuse ce communiqué.
La République reconnaît avec lucidité ces faits. 51 ans après cette tragédie, je rends hommage à la mémoire des victimes.
En 2012, le président socialiste est le premier chef d'État à reconnaître une sanglante répression le 17 octobre 61, un geste dérisoire pour Olivier Lecourt-Grandmaison.
Si la République était à ce point lucide, elle ne pourrait pas qualifier les massacres du 17 octobre 1961 de sanglante répression. Le 17 octobre doit être considéré comme un massacre. Exécution sommaire, noyade, on sait qu'il y a eu dans la cour même de la préfecture de police, c'est-à-dire à quelques dizaines de mètres des bureaux de Maurice Papon, des exécutions sommaires. On peut rajouter sanglante à répression, ça ne change pas le fait.
Colombes, au nord-ouest de Paris, une petite place devant une école élémentaire. Ce dimanche, elle deviendra le parvis du 17 octobre 1961. Alexis Bachelet est adjoint au maire.
Donc en fait, nous on s'inscrit dans cette mémoire de la région parisienne. Et donc c'est une plaque qui indiquera qu'on a inauguré un parvis du 17 octobre 1961 et peut-être qu'il y aura aussi un descriptif des événements comme on a dans d'autres villes voisines.
Une simple plaque et pourtant son installation ne s'est pas faite sans mal. Avant que la mairie de Colombes ne bascule à gauche, en 2020, Alexis Bachelet était conseiller municipal dans l'opposition.
Pendant 15 ans, on a eu une municipalité qui, malgré les demandes répétées, malgré la présence d'associations, malgré la présence aussi de familles dont les parents, les frères, les sœurs ont été victimes de la répression du 17 octobre, refusait avec une forme d'obstination d'accorder un lieu de mémoire. On a eu des échanges en conseil municipal un peu étonnants. En gros, c'était des événements, des rixes entre militants du FLN et que dans ces rixes, il y avait eu effectivement des morts. Ça allait vraiment jusqu'à une forme de révisionnisme historique et de déni de la gravité de la répression, de la gravité de l'événement, étant entendu que c'était des gens qui se revendiquaient politiquement du gaullisme. Voilà, il y avait aussi cette idée que peut-être on allait ternir non seulement l'image de la France, mais aussi l'image de leur famille politique et de ce à quoi ils croyaient en tant que militants.
L'élu profite d'un mandat de député entre 2012 et 2017 pour tenter, avec d'autres, de faire passer une proposition de loi pour la reconnaissance de la responsabilité de l'État français dans le massacre du 17 octobre. Il n'obtiendra même pas le soutien de son groupe politique, socialiste, écologiste et républicain. Rien de surprenant pour le politologue et militant Olivier Lecourt-Grandmaison.
Dans le cas de la guerre d'Algérie, et peut-être plus encore du 17 octobre 1961, parce que ça s'est passé à Paris, l'ensemble fonctionne comme un terrible révélateur, qui met à mal la mythologie nationale républicaine sur l'idée que la République a toujours été fidèle à ses principes en métropole. Le 17 octobre 1961 prouve qu'il n'en est rien. Cela remet en cause les mythologies partisanes, celle de la direction du Parti communiste, qui a toujours prétendu avoir été constamment anticolonialiste dans le cas de l'Algérie. Ce n'est pas vrai. Ça remet en cause celle du Parti socialiste comme grand parti de l'émancipation et du progrès, dont l'ancêtre, la SFIO, a joué un rôle absolument délétère pendant la guerre d'Algérie. Et ça porte enfin atteinte à des grandes mythologies personnelles. Qui était Premier ministre ? Michel Debré, l'un des rédacteurs de la Constitution de la Ve République. Et qui était président de la République à l'époque ? Évidemment, le général de Gaulle. Et donc, j'ai tendance à considérer que l'ensemble de ces éléments font que, à droite, comme pour une partie des gauches gouvernementales, ce passé est un passé extrêmement dangereux, encore une fois, du point de vue des mythologies nationales, du point de vue des mythologies partisanes et du point de vue des mythologies personnelles qui soutiennent parfois ces mythologies nationales et partisanes.
Après les mots du candidat Macron sur la barbarie de la colonisation, le geste du chef de l'État envers les harkis tout récemment, les associations espèrent que le 60e anniversaire du massacre marquera un tournant.
En ce qui me concerne, je ne suis pas forcément d'un optimisme débridé, parce qu'il me semble que Emmanuel Macron adopte une tactique qui consiste à céder un peu pour ne pas céder sur le fond. Si l'on compare avec la plupart des autres grandes puissances coloniales européennes ou la plupart des autres États qui se sont bâtis sur la destruction partielle des populations autochtones, on se rend compte à quel point, effectivement, dans ces domaines et sur ces matières, la France est sinistrement en retard.
Mais alors que les tensions sont vives avec Alger, le 17 octobre pourrait être l'une de ces occasions d'apaisement sur les sujets mémoriaux que souhaite Emmanuel Macron. Quoi qu'il arrive, dimanche, les associations seront comme chaque année, inlassablement, au rendez-vous sur le pont Saint-Michel au cœur de Paris. Car ici, il y a 60 ans, on noyait des Algériens.
« 17 octobre 61, il y aura-t-il reconnaissance d'un crime d'État en plein Paris ?» Un grand reportage de Marie Casadebet, réalisation Pauline Leduc.